France Inter.
C'est comme pour un acteur, c'est la personnalité. Sa présence.
Vous répondrez non, ça serait de la bêtise.
Si tu veux être dans un de mes films, il faut que ça coule les ténèbres. Ok ?
Ça peut couler, hein.
On n'a pas tout.
Allez, action !
Ce sera encore mieux, c'est de rien dire.
De mémoire de festivalier, et la nôtre remonte loin. Cette compétition 2025 bat les records d'imagination, de mise en scène, de choc thermique et politique. Nous sommes en direct du Palais des Festivals à Cannes. Bonjour tout le monde et salut Laurent.
Bonjour Christine, bienvenue à tous sur La Croisette.
Oui, on peut plaindre et à la fois envier ce jury mené par Juliette Binoche ce matin en train de choisir qui récompenser dans cette passionnante compétition. Des palmes d'or possibles, il y en a plusieurs, tout comme des mises en scène et des scénarios, sans compter actrices et acteurs qui ont donné chair et âme à tous ces films. Laurent, nous ne sommes pas toujours d'accord.
C'est vrai.
C'est ce qui fait toute la richesse et la complexité du cinéma à Cannes. C'est parti.
France Inter.
Chut, ne fais pas trop bruit.
On aura tout vu.
La palme d'or.
Christine Masson et Laurent Delmas.
J'aurais pas pu m'imaginer de parler du monde sans parler de la guerre, mais j'aurais pas pu non plus m'imaginer de parler de la guerre sans parler du monde, parce que je pense que les deux se sont liés, parce que je pense que Tel Aviv et Gaza, ce sont deux cas complémentaires finalement. Il n'y a pas l'un sans l'autre. On ne peut pas comprendre Gaza sans comprendre Tel Aviv.
Pourquoi le film Yes, Oui de Nadav Lapid n'était pas en compétition, mais à la quinzaine des cinéastes? On ne le saura peut-être un jour ou pas. Dans Yes, Y, un artiste israélien amuseur et dans le déni du réel, doit composer un hymne national à partir de paroles appelant à l'extermination de Gaza. Un film féroce et courageux sur l'obscénité de cette situation, l'intenable. Un film chaotique, une tragédie musicale. Le film Yes sortira chez nous à l'automne. Un avant-goût avec son réalisateur, Nadav Lapid, et comme une déclaration d'intention.
BBC, Sonnet Israël. CNN,
Sonnet Israël.
New York Times,
Sonnet Israël.
Mercaz Pompidou,
Sonnet Israël.
Wow, אני מלחין את זה.
אפילו הצופים בבית שונים את ישראל. זו מלחמה.
La différence entre un cinéaste israélien et le reste des cinéastes du monde, c'est qu'il ne peut pas s'empêcher de parler de son pays.
Oui, moi, je pense que pour moi, ce film était dans ce sens-là un cas exemplaire. Moi, ce film, j'ai commencé à le préparer avant le 7 octobre. Oui. Je voulais parler du défait de l'artiste, de la mort, de l'art, de la soumission. Je voulais parler de celui qui veut être bon dans un monde mauvais et à la fin, se trouve en train de faire le mal et de contaminer sa vie personnelle, son amour et sa vie de couple. Mais d'abord, je ne pouvais pas m'imaginer à quel niveau ce monde sera mauvais, parce que c'était le monde avant le 7 octobre et le monde après le 7 octobre est devenu mille fois plus mauvais. Et puis, ce film-là que je me suis imaginé, il aurait pu être fait dans n'importe quel pays. Et d'ailleurs, on a, d'une certaine manière, parce que cette soumission des hommes aux idées et face aux hommes au pouvoir, c'est un truc général. Et il aurait pu être fait n'importe où. Et d'ailleurs, on a même eu quelques idées de peut-être de le filmer là-bas. Non ? Vient le 7 octobre, vient les moments les plus terribles, les pires moments de l'histoire de ce pays, de mon pays, et les moments où ce pays va commettre le pire. Il n'y a aucun autre choix. Enfin, je pense qu'il faut être un homme sans cœur ni âme pour ne pas en parler. En général, pour moi, c'est très déplaisant pour le cinéma qu'il est devenu beaucoup plus sage que le monde qui l'entoure. Je pense qu'on vit dans un monde si sauvage. Je pense que plus ou moins chacun parmi nous, 2, 3, 4 et 5 fois par jour, il est choqué face à quelque chose, il est hébété face à quelque chose, par quelque chose qu'il voit, par quelque chose qu'il lit, je ne sais pas, dans son téléphone, etc., etc., par les infos. Trop peu de fois, cette chose choquante lui arrive quand il regarde l'écran du cinéma, enfin, quand il regarde un film. Et je trouve qu'il y a presque, pour moi, il y a du mauvais goût et de la vulgarité de faire des films dociles et calmes dans un monde pareil. Il y a presque une forme de collaboration. Moi, je me demande, par rapport à ça, où sont les films, où est le cinéma sur lesquels, je ne sais pas, on a été élevé et grandi, ce cinéma qui une fois quand il voit le feu, il court vers le feu, il se rapproche vers le feu, il saute à l'intérieur. Parfois, c'est le cinéma lui-même qui embrasse le feu. Et du coup, je pense qu'on voit du cinéma, en général, encore une fois, qui prend sa distance, qui cherche le côté safe. Depuis quand le mot safe a quelque chose à voir avec le cinéma? Depuis quand on travaille dans les affaires de l'assurance?
Yes, de Nadav Lapid. Libéré, lui, depuis 2023, le cinéaste iranien Jafar Panahi a pu rejoindre La Croisette et présenter Un simple accident, tourné à sa sortie de prison. L'histoire de Vahid, qui un soir et par hasard reconnaît celui qu'il pense être son bourreau. Vahid l'assomme, l'enterre presque, mais plein de remords, demande à d'autres victimes une identification qui lui permettrait de se venger. La question du film, Laurent, c'est finalement comment en découdre avec ce régime.
Oui, alors le moins qu'on puisse dire, c'est que Jafar Panahi n'est pas un cinéaste safe, comme disait Nadav Lapid. Hein, c'est, il prend la réalité iranienne à bras-le-corps et il en paye le prix. Hein, dans sa propre vie, on le sait bien par la privation de liberté, notamment. C'est un formidable film de réflexion intense sur la vengeance, le droit de tuer, le devoir de ne pas tuer, que faire du bourreau quand on l'a en face de soi et qu'on le retrouve. Et c'est... évidemment, pour Panahi, une façon de multiplier les points de vue. Et puis au milieu de tout ça, il y a une formidable capacité, sa formidable capacité à manier l'ironie, l'absurde, la distance, bref, à avoir, à cultiver peut-être la politesse du désespoir. C'est ce qui fait de Un simple accident un grand film que vous pourrez découvrir le 10 septembre prochain.
Et une palme d'or préannoncée par beaucoup, peut-être pour récupérer, disent certains, l'erreur commise l'an dernier de ne pas décerner à Rasoulov. L'autre Iranien de cette compétition à 35 ans, il s'appelle Saïd Roustahi. Après Leila et ses frères, il présente Mother and Child. C'est aussi une affaire de vengeance, mais dans la sphère privée cette fois. La vengeance d'une mère après la mort accidentelle de son fils Aliyar, tombé de la fenêtre de l'immeuble de son grand-père. Un portrait malgré le voile ultra-moderne de la femme iranienne révoltée contre les hommes jusqu'à cette conclusion en forme de gynécée, Laurent.
Oui, alors la tentation, c'est évidemment de comparer les films iraniens entre eux, le film de Panahi dont on vient de parler, celui-là, c'est pas, et de décerner des palmes de courage ou pas de courage à l'un ou l'autre, ça serait pas raisonnable. C'est deux films qui se tiennent en eux-mêmes, qui ont des regards assez convergents quand même sur l'état déplorable de la société iranienne. Après, on peut avoir, et c'est mon cas, des réserves sur le film lui-même, c'est-à-dire sur la façon dont son scénario est très calibré, assez artificiel, dans la multiplication des rebondissements, qui finit peut-être par un peu lasser, et peut-être par faire perdre un peu de vigueur sociale au tableau.
C'est drôle, j'aurais dit la même chose, moi, sur le Panahi.
Bon, ben voilà. Et
tout c'est le développement de votre argumentaire. Alors, elles sont cinq toutes jeunes actrices à l'affiche de Jeunes Mères, des Frères Dardenne, leur 10e film présenté sur La Croisette, et une 3e Palme d'Or, point d'interrogation. 5 jeunes femmes hébergées dans une maison maternelle près de Liège, ados sans ressources et à l'heure du choix, garder ou non l'enfant qu'elles attendent. Toutes fragilisées, familles dysfonctionnelles, mères absentes, pauvreté, addiction. Des portraits concis, directs et la force, malgré tout, de construire un avenir. Elles sont arrivées à Cannes, joyeuses et comme un peu de fraîcheur dans ce monde d'apparence. Les voici.
Quand je suis arrivée ici, je voulais donner ma fille en adoption. Je l'ai pas fait parce que vous m'avez aidée à pas avoir honte d'être une mère célibataire. Toi, Yasmine, t'as parlé des jours et des jours avec ma maman, qui a accepté de me revoir avec ma fille. Merci à toi et à vous toutes.
Janaïna Aloafokan et j'incarne Ariane.
Je m'appelle Babette Verbeek et je joue le rôle de Jessica.
Je suis Elsa Aubaine et je joue le rôle de Julie.
Je m'appelle Lucie Laruelle et j'incarne Perlin.
Je suis Samia Elmi et je joue Naïma.
Qui parmi vous avait déjà vu un film des Frères Dardenne avant de faire le film?
Moi, j'avais vu Rosetta quand j'étais jeune avec mes parents et je comprenais pas trop parce que c'était très lent. Il y avait pas de musique. Enfin, c'est très spécial quand c'est la première fois que tu vois un film comme ça.
Ouais.
Et puis après, je les ai tous redécouverts quand j'ai su que j'allais jouer avec eux. Et j'ai beaucoup plus aimé.
Moi, pour être complètement honnête, j'ai regardé mon premier film des Frères Dardenne entre le premier et le deuxième tour de casting. J'ai regardé Rosetta. Bah, Emily Dockin, c'est quelque chose. Hein, elle arrive tout de suite, il se passe un truc et j'étais « Oh, waouh !» Et je me suis dit « C'est fini pour moi !» Et puis finalement, dingue.
Mais c'est vrai que j'ai déjà connu des filles qui étaient mamans très jeunes et je me suis toujours demandé comment elles vivaient ça. Et comment elles arrivaient à gérer leur vie de jeune, l'école, les études ou alors le travail?
Pendant la répétition, on a eu aussi la chance de rencontrer des jeunes filles qui habitent dans la vraie maison maternelle et d'échanger avec elles, passer des après-midi aussi, parce que moi, c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude d'être près de si petits bébés, etc. Donc, elles nous ont fait... Enfin, moi, celle que j'ai rencontrée m'a fait fort confiance. On s'est occupé de son enfant ensemble et tout, on a pu échanger. Et ça, pour moi, ça a été très riche comme moment.
Beaucoup d'entre vous, c'était votre première expérience de cinéma, vous, par exemple.
Oui. Alors, moi, j'ai jamais fait de choses artistiques, ni de théâtre, ni de cinéma. Donc, c'était ma première. Et je pense que c'est ce qui a aussi un peu influencé le fait qu'ils m'ont pris, parce que j'étais très naturelle. Très dans j'apprends le texte et je fais sans réfléchir à comment jouer, et eux ils aiment beaucoup ça dans leurs films, tout ce qui est le naturel et l'authentique.
Pour moi aussi, souvent je pouvais un peu stresser de ce que je pouvais faire, et puis après je me rappelais qu'ils étaient très précis dans ce qu'ils voulaient, dans les actions, et donc oui, c'est plus quelque chose qui me rassurait. Après c'est vrai que c'était très exigeant, on pouvait passer une journée à faire une scène, puis après ils la regardent et ils se disent ah, en fait on a envie de changer un déplacement, et donc on la refait. Mais en même temps, le résultat est là, quoi.
Qu'est-ce que ça dit, ce film, finalement? La morale de l'histoire, c'est quoi, alors? Sur tous ces destins de filles.
Que n'importe quel problème ou situation dans laquelle on est, il y a toujours un moyen de s'en sortir. Et que n'importe quel chemin est bon à suivre. Il n'y a pas un mauvais chemin, en fait. C'est que on peut être mère de plein de façons différentes. Et c'est quand même toujours beau.
Cannes, c'est important pour vous toutes?
C'est ma première fois. C'est hyper excitant, en tout cas. C'est vrai que c'était un rêve. Je pensais pas que ça arriverait si vite. On a de la chance, on est tombé au bon endroit, ouais, au bon moment.
Et oui, elles ont raison, bon endroit, bon moment pour un début de carrière en compétition à Cannes avec les Frères Dardenne, jeune mère, est sorti mercredi. Une Française en compétition et le retour de Julia Ducournau 4 ans après sa Palme d'Or pour Titane avec Alpha, donc, années 80. Une maladie contagieuse transforme ce qui l'attrape en statue de marbre. Une mère, c'est Golshifteh Farahani, a peur pour sa fille que l'aiguille qui a gravé un A sur son bras soit contaminée, tout comme l'a été le frère et l'oncle junkie qui revient comme un fantôme. C'est à Haraïm, moins 20 kilos. Sida, plus Covid, plus dépendance, plus famille, plus amour, égale... Pathos et complaisance, non?
Ben oui, la notion de film de genre, hein, peut pas tout justifier. Julia Ducournau, avec ce troisième long, semble s'enfermer dans un système d'images choc, au risque d'oublier ce qu'elle veut dire ou raconter. Elle a écrit le scénario seule. Est-ce que c'est absolument raisonnable? Est-ce qu'un autre regard, plus étranger, aurait peut-être limité les redites, les obscurités inutiles, les errances narratives? Il fallait évidemment tenter de faire oublier Mauvais Sang, les Oscarax, auxquels moi j'ai pas justement cesser de penser pendant tout le film. On y repense sans cesse et c'est malheureusement au détriment du film de Julia Ducournau qui sera en salle le 20 août prochain.
À partir d'un récit autobiographique et fort, un film qui l'est tout autant, Love Me Tender, d'après le livre de Constance Debré, adapté au cinéma par Anna Cazenave-Cambet et présenté à un certain regard. Une fin d'été, Clémence et Vicky Cripps annoncent à son ex-mari et père de son enfant qu'elle a des histoires d'amour avec des femmes et sa vie bascule lorsqu'il lui retire la garde de son fils. Love Me Tender, le récit d'une lutte pour rester mère, femme et libre, un récit mené par une actrice vibrante. Vicky Cripps, nous l'avons rencontrée avec sa réalisatrice Anna Cazenave-Cambet.
Salut. Je me speed parce que je suis hyper mal garé. Tiens. Salut, bonhomme. Tu m'appelles s'il y a quoi que ce soit, d'accord?
À demain soir, papa.
Allez.
Elle est en cours?
Ouais, on se casse. Vite, plus vite.
On tombe amoureux d'un personnage et d'une histoire. Et aussi parce que moi, je me demande toujours
Qu'est-ce que j'aimerais voir? Qu'est-ce que j'aurais aimé voir? Moi, enfant, ado, quel personnage me manque dans le paysage? Et ce livre, quand je le rencontre, je me dis que cette femme, je ne l'ai jamais vue. Et je me dis que cette mère, je ne l'ai jamais vue. Je ne l'avais jamais lue, même. Quand j'ai lu ce livre, j'étais une jeune maman. Et je manquais de références. J'avais que des références qui me semblaient inatteignables, qui me semblaient lisses, qui me semblaient nager dans le bonheur. Et moi, je vivais quelque chose où j'avais envie et besoin de comprendre l'écrasement de la responsabilité. Et en lisant le livre, je me suis dit, ah tiens, il y a d'autres voies. Rien que pour ça, c'était fort pour moi. En fait, j'ai pensé à Marguerite Duras et à François Sagan. Je me suis dit que finalement, c'était marrant, mais je me rendais compte que mes seules références de femmes autrices qui comptaient pour moi étaient ces femmes-là, et que leur rapport à la maternité était tellement complexe et tellement dur. Et quand je lis Love Me Tender, je lis tout autre chose. Je lis une nouvelle parole sur cet amour qui est si puissant, et qui en même temps, cette femme s'autorise à se poser la question de à quel prix, jusqu'où on doit payer pour être validée en tant que mère, pour être la bonne mère.
C'est un supplément d'âme d'être une mère pour jouer ce rôle-là ou pas, Vicky?
En fait, si on lit le livre de Constance Debré, tout le monde parle que c'est dur. Et moi, j'ai très vite compris que c'est dur parce qu'à l'intérieur, il y a une douleur que je connais, moi, en tant que mère qui s'est séparée du père des enfants. Et que depuis que je me suis séparée, c'était une lutte interminable. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a cette lutte, il y a cette douleur, et je voulais donner un visage que tu ne vois pas dans le livre. Les femmes ont une douceur qui, des fois, ne se voit pas de l'extérieur, mais qui est à l'intérieur. Et que je voulais donner cette douceur, et je pense Anna aussi, à cette histoire pour qu'on s'ouvre à cette vérité. Moi, par exemple, je n'ai jamais vécu avec une femme. Et donc, si on veut, c'était mon plus grand challenge. Autre que, quand même, sentir la douleur de la mère qui ne voit pas son enfant, qui était quelque chose que je n'ai jamais senti avant et que j'espère plus sentir après. Mais devoir jouer une femme qui aime les femmes d'une manière charnelle et sexuelle, pour moi, c'était un challenge. Et je veux bien faire mon travail, donc c'est très important de rendre justice à ça. Et j'ai très vite compris, parce que c'est évident, que c'est la chaleur humaine, et c'est les peaux qui transmettent la chaleur, c'est ça. C'est pas si c'est une femme et une femme, un homme et un homme, un truc et un truc, un machin et un machin. C'est l'amour entre les êtres humains qui compte. Et c'est ça qu'il faut transporter dans le cinéma.
Très subtile adaptation du roman, effectivement, de Constance Debré, ce Love Me Tender, dont on ne connaît pas encore la date de sortie.
Là. Non, on peut dire que c'est un des plus beaux films qu'on ait vu hors compétition, ouais. Cette édition.
Rebecca Zlotowski, hors compétition, avec également ce film Vie privée, comme un hommage au cinéma de Woody Allen, entre Meurtre mystérieux à Manhattan et Une autre femme, avec en son centre Jodie Foster, 100% en français. Une psychanalyste enquêtant après la mort suspecte d'une de ses patientes, cette femme professionnelle et carrée, va franchir d'autres limites, Laurent.
Oui, alors c'est vrai, une psychanalyste qui fait une enquête, on songe à Woody Allen, on peut songer aussi à Hitchcock, on peut songer à Truffaut. Mais je pense pas qu'il faille alourdir le propos de Rebecca Zlotowski sous les références. Et effectivement, voilà, et c'est une cinéaste cinéphile, il n'y en a pas tant que ça. Donc on sait combien ce cinéma-là compte pour elle. Et le fait de faire appel à Jodie Foster n'est pas pour rien dans ses références américaines, bien entendu. Le couple que forme Jodie Foster avec Daniel Auteuil m'a fait penser à de grands couples de la comédie américaine, mais c'est surtout vif, allègre, ça fait du bien, c'est léger, ça passe pour moi en tout cas comme une sorte de bulle de champagne dans ce festival, et je trouve que c'est tout à fait réussi, cette incursion un peu ailleurs par rapport à son univers habituel de Rebecca Zlotowski. Ça sort le 26 novembre dans les salles.
Désormais, il y aura deux Vies privées au cinéma.
Oui, c'est pas la première fois.
J'avoue que j'ai une préférence pour celle de Louis Malle, mais
c'est autre
bon,
chose, c'est tout
c'est
à fait
autre chose. La première chose qu'il a voulu sauver dans son appartement inondé, c'est cette cassette VHS. Celle d'un doc découvert en 95 et signé Moscow Bucco, un crime à Abidjan. 30 ans plus tard, Thomas N'Gijol en a fait un film, Indomptable au pluriel, présenté à la quinzaine des cinéastes. Très ému sur scène, l'humoriste, acteur, réalisateur, a gagné son pari. Indomptable, à partir d'une enquête autour de l'assassinat d'un policier, rend hommage à son pays, le Cameroun, son patriarcat, ses rires et ses larmes. Un polar très réussi, sans effet de style, mais avec beaucoup d'humanité. Voici Thomas N'Gijol.
Pourquoi tu es bête comme ça? Tu es Camerounais, non?
Oui.
Voilà. Donc tu es intelligent. C'est les petits Nigériens qui se font botter comme ça. Tu es d'accord, non?
Je suis d'accord.
Voilà. Donc quand tu es impliqué dans un sale coup, tu dis oui, mais j'étais pas seul. Là, tu as fait le malin de tes amis. Là, on fuit. Tu as payé. Seul, tu as payé pour eux. Ça, c'est bête. Donc là, il faut me raconter ce qui s'est passé. Parce que nous, on est déjà au courant. Alors, c'est pas la peine d'insister.
Quand on peut travailler dans des conditions pareilles, on perd même le temps avec les petits braqueurs minables.
C'était viscéral pour moi de faire ce film. Je sortais d'un spectacle. J'avais parlé de certaines choses par rapport à mes enfants. J'avais un peu explosé un certain plafond de verre. Et j'avais envie de continuer de parler de transmission, de parler de ça, de parler d'intime. Et voilà, le prétexte du documentaire, de cette enquête et tout, était parfait pour moi. Le Cameroun, en fait, c'était une fois que je voulais parler de ça et que j'avais ce personnage-là en tête... Il ne pouvait pas se situer en France parce que forcément, il y aura eu d'autres problématiques liées peut-être à l'immigration, à des choses un peu lourdes. C'était pas du tout le sujet. Et donc, les choses se font très naturellement. Il fallait revenir à la terre-mère, quoi. Il fallait revenir à l'origine, il fallait revenir au Cameroun.
Et faire un film 100% africain.
Complètement. Ah bah pour moi, en tant que réalisateur, j'ai enlevé totalement le prisme occidental. Je voulais pas du tout de ça. C'est la société là-bas, comment elle se passe. Et je voulais pas avoir un regard qui aurait pu être cynique à la fin sur les comportements ou les faits ici et là. Je voulais être plongé là-bas et aller au bout à 100%.
C'est un polar sec, sans excès, ouais. Sans gras, sans poursuite impitoyable. Ça me fait penser au polar de la Blaxploitation, vous voyez.
Moi, je voulais surtout être à taille humaine, en tout cas. Je vous rejoins à ce niveau-là, le côté un peu sec, dans le sens où je voulais raconter le parcours de cet homme. Et je voulais pas d'effet de style. Alors là, d'effet de style d'un point de vue cinéma. Je voulais pas fantasmer et faire l'inspecteur Harry à Yaoundé. Ça aurait été un total, pas dire un raté, peut-être que ça aurait été sympa, mais on n'en est pas là. La première étape, c'était d'évoluer avec cet homme, qui est flic, mais évoluer avec cet homme avant tout. Et de rester à l'échelle d'une société, et de faire les choses tranquillement.
Thomas, vous êtes conscient d'avoir fait un film politique sur ce pays aussi, sur les violences policières, le chaos, les services publics, les gens qui meurent à l'hôpital. C'était pas juste un fond, c'était pas un fond d'écran, tout ça.
Non, mais comme je vous le dis, j'aime profondément mon pays, donc je fais un état de fait. Vraiment, c'est un état de fait. Je veux pas descendre plus... Enfin, je le descends pas, d'ailleurs, le pays. Je veux pas qu'il y ait ce prisme-là. Parce que justement, quand vous dites ça, vous avez le prisme occidental, sans dénigrer votre propos.
Je suis occidental.
Mais complètement. Mais à l'échelle du Cameroun, c'est pas du tout ça, en fait. C'est pas du tout ça. Et je pense que justement, il faut qu'on dépasse sur ce film-là. Moi, ce que je voulais, c'est, quand j'en parlais au producteur, je dis, je veux faire un film universel, qui soit compris de tous, avant tout. Et qu'il soit pas au jugement franco-français et justement d'avoir cette vision de dire ah, il envoie dur sur le pays. Non, parce que j'aurais fait l'inverse, ça aurait été un énorme mensonge, ça aurait été malhonnête par rapport au Cameroun et même par rapport à moi-même.
Heureusement, l'humour est là pour sauver un petit peu l'entreprise, le pays, les gens, les personnages. C'est un pays où on doit rire beaucoup aussi, non?
Ouais, mais c'est surtout, c'est un pays où il y a une force de vie qui est assez incroyable parce que c'est un pays beaucoup plus rough, où il y a beaucoup plus de galères, où la vie est beaucoup plus dure. Mais au final, les gens se battent et ont acquis la bagarre en fait dans leur mode de vie. Et ça, ça les rend incroyablement forts.
Ils sont résilients aussi.
Hein. Ah oui, les actes de résilience. S'il n'y avait pas ça, il y aurait peut-être beaucoup plus de désespoir et beaucoup moins de rire. Et même eux là-bas, il y a des choses qui sont abracadabrantes, mais il y a toujours le... Je dis pas qu'il y a toujours le sourire, mais il y a toujours ce recul sur la vie où ils disent « Ah, gars, c'est le pays, hein, on avance. »
C'est qui les indomptables?
Ah, bah, c'est le peuple camerounais. C'est le peuple camerounais. On aurait pu les appeler les têtus, les fortes têtes. Le film a estimé ça en termes commerciaux, ça aurait été peut-être un peu plus catastrophique. Les fortes têtes en affiche avec moi et mon flingue et le regard.
C'était une des belles surprises de cette quinzaine des cinéastes. Oui. Thomas N. Gijol, donc acteur et réalisateur de ce film indomptable. Toujours en direct du Palais, mais on se retrouve après Ours, Pierre et Alain Souchon. À quoi tu penses ?
À quoi tu penses, à quoi tu penses en ce moment? À quoi tu penses, à quoi tu penses? Est-ce qu'un jour c'est fini, fini la comédie? Chanter après minuit, place de la mairie. Les premières rumbas la nuit, un dernier tango à Paris. Est-ce qu'un jour c'est fini, fini?
Les nuits de larmes, les jours de fête, moi je les garde dans ma tête. Les nuits de larmes, les jours de fête, moi je les garde dans ma tête. À quoi tu penses, à quoi tu penses en ce moment? À quoi tu penses, à quoi tu penses? À quoi tu penses en ce moment? À quoi tu penses, à quoi tu penses? Sept ans de réflexion, une robe qui vole. Sept ans de passion, on pleure, on rigole. Sur le piano du salon, chercher des paroles. Faire des chansons, console. Les nuits de larmes, les jours de fête, moi je les garde dans ma tête. Les nuits de larmes, les jours de fête, moi je les garde dans ma tête.
À quoi tu penses en ce moment? À quoi tu penses, à quoi tu penses? À quoi tu penses, à quoi tu penses en ce moment? À quoi tu penses, à quoi tu penses?
France Inter, on aura tout vu. Christine Masson et Laurent Delmas.
Oui, toujours en direct du Palais des Festivals toujours. À Cannes pour cette 78e édition. Alors oui, peut-être faut-il avoir lu le livre « L'art de la joie » pour apprécier pleinement ce film de l'Italien Mario Marton Fuori, en compétition ici. Le portrait de l'auteur, Goliarda Sapienza, que l'on retrouve à Rome, années 80, alors qu'elle travaille sur le livre qui ne sera jamais édité de son vivant. Portrait impressionniste d'une femme libre, indomptable, quinquagénaire, déclassée, dont son passage en prison lui a coûté sa position sociale. Un film mélancolique sur l'âme d'une écrivaine, incarnée, et c'est sans doute le rôle de sa vie, par Valeria Golino, Laurent.
J'avoue, mon inculture, je n'ai pas lu effectivement L'art de la joie, donc j'ai découvert à travers ce film, qui n'est pas un biopic hein, au sens traditionnel et un peu terne du terme, mais qui est un vrai film ambitieux de montrer effectivement cette femme. J'ai pas beaucoup senti d'ailleurs qu'elle était un écrivain, une écrivaine, voilà, cette dimension-là, moi je ne l'ai pas beaucoup ressenti. Rome est magnifiquement filmée, il faut ouais. le dire au passage, parce que c'est tout à fait vrai. Petit défaut du film, c'est pas le seul à le faire, des images à la fin, des images documentaires montrent la véritable Sapienza, on se dit que le film nous montre une autre femme. Mais après tout, c'est la différence entre la fiction et la réalité. Pourquoi pas? Ça sort le 3 décembre prochain.
Une autre femme et une très grande actrice, Valeria Golino, qui tenait tellement à ce projet et qui peut-être pourrait recevoir ce soir un prix d'interprétation. Cannes se calcule parfois en minutes, le temps des applaudissements dans la grande salle lumière à l'issue d'un film. 19 minutes, un record, mais cela ne veut rien dire sur la suite, pour Sentimental Value du Norvégien Joachim Trier. Le retour d'un père, un vieux cinéaste, dans la vie de ses deux filles. Et cette question au cœur du propos, concilier vie artistique et vie de famille. Un film harmonieux, fluide, bergmanien, mais seulement sur les bords, sans crise apparente, et avec cette actrice Renate Rinsve, qu'on avait vue dans Julie en douche à pitée, qu'il avait d'ailleurs eu leur prix d'interprétation.
Absolument. Alors c'est un très beau titre, hein, même en français, Valeurs sentimentales, merveille. Et le début du film est sidérant, parce que c'est une maison qui parle, et c'est une maison qui se raconte, une maison de famille. On est un peu chez Olivia Assayas dans l'heure d'été. Et là, on se dit très très beau démarrage. Mais malheureusement, après, j'ai trouvé moi que le film s'épaississait, justement, s'alourdissait, avec notamment des récits secondaires liés à la Seconde Guerre mondiale. Donc je ne sais pas trop ce qu'ils font ici, sinon à rendre le propos artificiel. C'est dommage, parce que entre Shakespeare et Tchekhov, on pouvait être ému par ce cinéaste auto-centré face à ses deux filles. C'est quand même un peu la première fois que Joachim Trier déçoit.
Oui.
Ça sort le 20 août.
Oui. Je le dis. Et on reste quand même sur le souvenir de ce premier film Oslo 30.
Et voilà. Et
c'est
voilà.
Terrible d'avoir, de commencer une carrière avec un si beau film.
C'est vrai.
Il le dit, sa vie a changé quand il a découvert les cinéastes français de la nouvelle vague, et particulièrement ce film à bout de souffle de Jean-Luc Godard. L'américain Richard Linklater les embrasse tendrement dans ce film Nouvelle Vague, en compétition ici. Anatomie d'un tournage, restitution de l'époque 1959 avec des acteurs peu connus mais tellement justes.
Tellement.
Il ne s'agit pas, dit Linklater, de refaire à bout de souffle, mais de le reprendre, de le regarder sous un autre angle. De ce point de vue, c'est hyper réussi et drôle et émouvant aussi. Voici Richard Linklater et sa productrice Michelle Halberstadt. Merci à elle pour la traduction.
Un joli garçon, une jolie fille, Paris 1959, de l'aventure, une cascade, des policiers, un flipper, un café.
Pur génie.
Un tournage.
Nouvelle Vague. Un film de Richard Linklater. Un film de cinéma.
Votre film transpire la liberté et la joie de l'époque. C'est ce qu'on ressent. Et on avait l'impression que c'était ça à l'époque, faire du cinéma.
In my own mind, I was going back to being in my 20s.
Oui, je crois. Moi, dans ma tête, j'essaie de redevenir ce que j'étais quand j'avais 20 ans.
Feeling the exhilaration of being able to make a film.
Sentir cette excitation, ce bonheur de faire un film.
After years of thinking about it and having all these cinematic ideas.
Passer des années à y penser, avoir des idées de cinéma dans la tête.
When you finally get your chance.
Quand enfin c'est à vous de faire votre film.
You're both. Exhilarated, happy.
On est à la fois tellement fou de bonheur.
And a little terrified.
Et un peu terrifié quand même.
Both.
C'est so les deux en même temps, tout le temps. Et on cherche l'équilibre entre les deux.
Le message personnel du film, c'est il faut se lancer, même maintenant et surtout quand la technologie le permet.
Yeah, it's easier, cheaper.
Bien sûr,
technology.
C'est bien plus facile, ça coûte moins cher.
Yeah, technology. Well, we see it with the lighter cameras.
On le voit avec les caméras plus légères.
Its technology has only helped.
La technologie l'a aidé à faire son film et à faire ses films. Ces films-là, avec ces metteurs en scène-là, ça coûtait moins cher comme ça.
Cheaper,
c'est devenu easier. Moins cher, moins lourd, plus facile.
Yeah. No excuses.
Aucune raison, aucune excuse pour ne pas y aller.
Yeah. This film is a tribute to the kind of people who want to work on movies.
Le film est un hommage à tous les gens qui ont envie de travailler sur des films.
To dedicate their lives to this crazy.
Qui dédient leur film, leur vie, pardon, à cette notion un peu folle.
They're the best people. They're pirates. They're
c'est des gens formidables. C'est des pirates.
They're adventurers who are.
Des aventuriers.
Who are not afraid.
Ils n'ont peur de rien.
They're not afraid to be unemployed for.
Ils n'ont pas peur d'être au chômage pendant des mois.
They're driven by passion.
Ils sont vraiment motivés par la passion.
To be a part of something that could be great.
Ils ont envie de faire partie de quelque chose qui éventuellement un jour pourrait être grand.
Je crois que c'est Rossellini qui lui dit, si tu n'es pas inspiré, ne te force pas. Mais l'économie a changé désormais. On est obligé de se forcer. Il y a l'argent maintenant.
Yeah, every day you have to kind of push yourself. It's easy to do nothing.
Il faut se forcer tous les jours, c'est tellement facile de ne rien faire.
Yeah, no, films are made by the crazy people who are compelled.
Oui, les films sont faits par des gens fous qui se sentent vraiment poussés.
Yeah, that's why I think filmmakers have a respect for other filmmakers.
C'est pour ça que les metteurs en scène se respectent entre eux.
Even if Even if you don't either know the film or like
si vous n'aimez pas les films, si vous ne les connaissez pas bien, vous ne les comprenez pas, mais vous reconnaissez
ça. Cette
espèce d'esprit commun. Vous êtes un dingue obsessionnel comme moi.
Jean-Luc Godard est bouleversé par son actrice qui trouve la fin du film. C'est bouleversant pour un cinéaste. Et c'est ça le cinéma, c'est ici et maintenant quand ça se tourne.
I think the more you study Abu Dussouf, and we really
got
to know.
Puis on étudie Abu Dussouf, et vraiment, on l'a étudié sous toutes les coutures.
How much footage was close-ups of Jean Seberg?
C'est incroyable de voir combien de plans sont des gros plans de Jean Seberg.
He was intrigued with her. The whole thing is like seeing her.
Oui, c'était vraiment, il la regardait, il était intrigué par elle.
I think that's what gives the movie its heart and soul, the mystery of these two actors.
Je crois que c'est ce qui donne au film son cœur et son âme, c'est le mystère de ces deux visages, de ces deux acteurs, Belmondo et elle.
Particularly her.
Mais surtout elle.
He knew Belmondo in a way.
Il connaissait Belmondo. Il savait qu'il le connaissait, mais il savait bien que elle était incompréhensible pour lui, qu'il ne la connaîtrait jamais vraiment.
History, cinematic history was just made, and
et l'histoire du cinéma est faite à ce moment-là.
He's not even sure he's absorbing it.
Il absorbe ce qu'il est en train de voir, mais il ne sait même pas si ça fonctionne, mais il est fasciné.
And that's the only shot we use it in the movie. It's the only shot we replicated.
C'est le seul unique plan où on reproduit exactement le plan du film.
We replicated
c'est
a shot from the movie.
C'est le seul qui est dans le même
monde. Yeah.
Mais celui-là le méritait.
Ce réjouissant film qui s'appelle Nouvelle Vague.
On n'a qu'une envie, c'est de le revoir.
De Richard Lynn. Exactement.
Oui,
et sort le 8 octobre.
Ouais, ouais.
Ce film-là démarre sur le squelette de son protagoniste, Joseph Mengele. Incroyable ouverture pour un biopic. Ce film signé du russe Kirill Serebrennikov. La disparition de Joseph Mengele était présentée ici à un certain regard. Il suit le médecin nazi d'Auschwitz dans sa fuite en Amérique du Sud, celui baptisé l'ange de la mort qui va organiser sa disparition pour échapper à toute forme de procès. Le film est tiré du livre dont son auteur, Olivier Guèze, approuve totalement son adaptation. Un écrivain à Cannes, le voici.
אז בוא נשאל מישהו רגע, אדון סניור, סאבס כמו קודמוס שגרה אסטה לוגן?
שקלר, מה קורה שם? יש שום פה גוירי, צ'ו בפסול פרדי קוואדר, אני אומר, אני כסף, אני אומר, אני אומר, אני אומר,
En général, les écrivains sont toujours un peu sceptiques, en tout cas ils ont un peu peur. Mais moi j'adorais le cinéma de Kirill. J'ai découvert le personnage ensuite, l'homme. Et je suis ravi de l'adaptation qui est à la fois sa propre vision de cette histoire et d'un autre côté qui est très fidèle au livre.
Il dit lui, Kirill Serebrennikov, le livre de Guèze a provoqué l'imagination. C'est vrai qu'il y avait beaucoup d'espace à remplir. Et c'est ça le rôle du cinéma, justement, c'est d'inventer ces espaces.
Non, complètement. Il a mis en image des paysages. Il a mis en image la cavale d'un homme qui s'autodévore au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'il a plutôt mis de côté l'intrigue d'espionnage, c'est-à-dire la traque, la chasse. Il y a déjà eu pas mal de films, justement, sur la traque des nazis. Et lui s'est vraiment concentré sur l'autre dimension, parce qu'il a toujours eu ces deux dimensions dans le livre, c'est-à-dire l'idée de la disparition. Et en fait, on voit, c'est-à-dire qu'on ne quitte quasiment jamais Mengele des yeux, de l'écran, il est omniprésent, mais en fait, il n'y a jamais d'ennemi. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, on le voit, on voit sa paranoïa croître, on voit son malaise croître, on voit sa folie, en fait, et on voit comment cet homme, à force d'ailleurs de changer d'identité, puisque c'est chapitré, Grégor, Peter, Pedro, disparaît bien avant de mourir, il n'existe plus en fait. Et quelque part, il en a conscience. Et ça, Kirill le met extraordinairement bien en scène. Ce qui m'intéressait, ce qu'a très bien compris Kirill en lisant le livre, c'est qu'en fait, ces grands criminels, il faut les traiter comme des hommes. C'est-à-dire que si on les met dans la catégorie monstre, on ne comprendra jamais. Impossible. Alors que justement, en se mettant ou dans la tête ou sur ses pas, ça permet justement d'approcher le mal au plus près. Et ça permet aussi de comprendre, en fait, qui étaient ces hommes. On est dans une bourgeoisie cultivée, conservatrice, mais quelques années plus tard, cet homme va envoyer 400 000 personnes à la chambre à gaz en sifflotant. Donc, c'est-à-dire cette espèce de basculement de l'homme, qui est aussi le basculement de l'Europe au XXe siècle. Hein.
Fallait-il représenter en image Auschwitz, le train et les expérimentations médical.
Je pense que oui. Je pense que oui, parce qu'en fait, d'abord, tout le film est en noir et blanc, sauf les scènes à Auschwitz. Oui.
Ça, c'est un vrai choix artistique.
C'est un vrai choix artistique, c'est un choix esthétique. Je l'ai approuvé, enfin, quand je l'ai vu la première fois, tout simplement parce que ce sont les meilleures années de Mengele. C'est-à-dire la fuite, c'est le noir et blanc. Les couleurs de sa vie, c'est à ce moment-là. C'est-à-dire c'est ce sentiment de toute puissance qu'on voit bien justement sur le quai. C'est ce sentiment de travailler à la fois pour lui-même et pour le Reich. C'est-à-dire trouver le secret de la gémellité. Et c'est la possibilité, oui, de découper des hommes comme ça, comme on coupait une tranche de gigot, quelque part. Et je pense qu'il fallait le faire. Sinon, on ne comprenait pas, en fait, l'ampleur du crime. Parce qu'au fond, ce qu'on voit, c'est un homme en fuite qui vieillit au fur et à mesure et qui disparaît. Et moi, c'est le procédé que j'avais utilisé dans le livre. C'est-à-dire qu'au milieu, on est confronté. Et cette histoire est vraie, l'histoire de ce médecin Niesli, hongrois, qui était l'assistant, pour son plus grand malheur, juif hongrois de Mengele, a effectivement dû disséquer ce père et ce fils à Auschwitz. C'est-à-dire que Shoah a 40 ans aujourd'hui, film évidemment indispensable et indépassable sur le sujet, mais nous sommes 40 ans plus tard, dans une société où les survivants sont de moins en moins nombreux. Donc la question de la représentation, oui, se pose. Après, les gens peuvent voir des documentaires, les gens peuvent voir des photos, peuvent lire des centaines et des milliers de livres sur la question. Mais pour comprendre qui était Joseph Mengele, je pense qu'il fallait le montrer à l'œuvre.
C'est le point de vue de l'écrivain Olivier Guèze que Kirill Serebrennikov a adapté pour la disparition de Joseph Mengele. Un grand cinéaste brésilien explore son passé, celui de la dictature, agent secret de Kleber Mendoza Filho, qui revient à Cannes en compétition, 9 ans après Aquarius et ce talent intact et l'intelligence de sa mise en scène. Marcello Armando Wagner Moura, c'est ce long, fuit un passé mystérieux, revient à Recife et cherche à renouer avec sa famille. Nous sommes en 77, l'homme est menacé de mort. Le film mélange cinéma de genre, espionnage, culture populaire, notamment celle des Dents de la Mer. On écoute Kleber Mendoza Filho, traduit par Yves Bergugno. Peut-être que l'agent secret du film, c'est vous, le cinéaste qui fait passer des messages dans ces images.
Chaque fois que vous développez une histoire, très probablement, on entre dans un style de pensée que, adopté par un agent secret.
Parce qu'en fait, il faut
cacher ses véritables intentions
pour
aboutir à une idée qui fasse sens pour soi-même.
Ce n'est pas un film sur la dictature, mais c'est un film traversé par la dictature. La dictature est partout, dans la rue, dans les sons. C'est ça qu'il fallait faire passer. Elle transpire du film, la dictature.
Sim, eu gosto muito, por exemplo, de fazer.
Oui, effectivement. J'aime beaucoup l'idée de réaliser un film sur quelqu'un. Sur sa présence, sans qu'en fait il ou elle soit présent, sans qu'on le voit. Et donc là, c'est un peu l'idée, la métaphore de la dictature, qui au Brésil a exercé tellement de peur et de violence sur les gens, que même si le mot dictature n'est prononcé à aucun moment, sa pression se fait ressentir.
Comme Walter Salles, vous avez attendu un peu de temps pour parler de cette dictature à votre façon. Est-ce que c'est une façon pour vous de rendre hommage aux victimes ?
Ouvindo assim de você, eu acho que faz sentido. Você pode traduzir para ela.
Écoutez, à l'entendre, si c'est à travers votre bouche, comme vous l'avez dit, avec les mots que vous avez choisis, ça a fait du sens, ouais, ça a sens.
Mais c'est étrange, parce que
c'est un petit peu bizarre cette notion d'avoir rendu hommage aux victimes. J'y avais songé au début du projet, et puis après, en le développant, ça m'est sorti de l'esprit. Et maintenant que vous le dites, ça me revient. Mais quand même, je n'aime pas considérer le fait que j'aurais fait un film pour passer un message.
Vous avez été inquiété sous Bolsonaro, vous avez été interrogé en tant qu'artiste libre comme vous l'êtes.
Os anos Bolsonaro foram muito difíceis para
Oui, les années Bolsonaro ont été vraiment très négatives pour le milieu artistique.
Et
donc ce gouvernement a tenté, et d'ailleurs il a en grande partie réussi, à rendre criminelle la pensée artistique, la pensée libre. Et a voulu qu'on considère les artistes comme des parasites du système.
Muita gente desenvolveu problemas.
Donc c'est effectivement une période très tendue qui a créé d'ailleurs des problèmes de santé mentale, des difficultés à dormir. Donc tout le contexte était vraiment contre nous, était hostile, parce que en plus on subissait une pression de notre propre pays, du Brésil lui-même. D'ailleurs il y a une phrase dans mon film qui dit justement pour vous protéger du Brésil lui-même.
Nesses quatro anos. É a primeira vez que eu falo isso.
Mais d'ailleurs, c'est la première fois que je parle de cet aspect.
Agent secret, Laurent de Kléber Mendoza-Filho, peut-être Palme d'Or.
Quel diable d'homme. Oui, quel diable d'homme dont on aime les films luxuriants à tout point de vue, avec notamment cette jambe qui tue, qui traverse tout le film. Je vous en dis pas plus.
Et si à la fin, c'était la Chine qui gagnait ? Arrivé tard, le film est tout juste fini, oui. Bigan présente Résurrection, une grande odyssée découpée en 6 histoires, un choc visuel et un hommage à la magie du cinéma, Laurent.
Oui, le cinéma est organique, le cinéma est fait de fantômes et de vivants, le cinéma est un art de vampire jusqu'au sang, le cinéma c'est l'amour fou, le cinéma s'enfuit et nous passe entre les doigts. Bref, on aimerait parler de ce film comme Bigan. Fait surgir en nous ces émotions-là. De Nosferatu à In the Mood for Love, ben c'est un concentré de l'âme cinéphile. C'est pas un film pour spécialistes, c'est un film pour les amoureux du cinéma.
Et ça s'appelle Résurrection, et là aussi une palme d'or possible, bien sûr.
Tellement c'est une déclaration d'amour.
Alors, ouais. on va dire merci à pas mal de gens. Merci aux équipes de oui. Radio France à Cannes, vraiment merveilleuses, merveilleusement professionnelles.
Absolument.
Un clin d'œil amical à la Rajabouni. Oui. Un grand merci à notre belle équipe, Claire Destacan et David Leprince à la réalisation, Louise Tempero à la préparation et Thierry Dupin à la programmation musicale. On se retrouve ce soir, juste après les infos de 18h, pour vous faire vivre en direct cette cérémonie de clôture du 78e Festival de Cannes avec Philippe Rouillet et Samuel Douer. Au revoir.
Salut, à ce soir.